probable, en tous les cas, il faut l'espérer, qu'il sera en mesure d'assumer mieux que précédemment sa propre sécurité. On a des raisons de rester un petit peu réservé dans la mesure où ce retrait des forces des Nations Unies intervient pour la deuxième fois. En 2006, les forces des Nations Unies, qui étaient là depuis le début de l'indépendance en 2002, pour aider à assurer la sécurité du pays, avaient dû suspendre leur retrait à la suite de violences intervenues au sein des forces militaires timoraises en 2006. Bon, depuis 2006, il y a eu une série de processus politiques qui ont permis une certaine stabilisation, et notamment donc l'intervention de l'ONU et surtout de l'Australie, qui a assuré la formation des forces armées timoraises et notamment de la police. Après le départ prévu des Nations Unies, il est prévu que l'Australie continue d'exercer une coopération avec le gouvernement timorais en matière de sécurité.
Mais alors, quelle est la menace principale qui pourrait peser sur la sécurité du Timor oriental ?
Plus que celle de l'Indonésie qui a pesé dans le passé, puisque l'Indonésie avait occupé le pays pendant plus de 20 ans. Depuis l'indépendance, il y a 12 ans, la menace principale est purement interne. C'est-à-dire qu'on a affaire à un pays d'un million d'habitants qui reste encore très sous-développé économiquement. Il y a une situation sociale qui est très difficile, malgré des ressources en pétrole qui sont importantes mais assez mal dépensées. On a donc une petite classe politique extrêmement fragmentée qui est constituée pour l'essentiel de métis portugais timorais qui sont peu nombreux mais qui se disputent en permanence donc le pouvoir dans ce petit état qui occupe la moitié de l'île de Timor entre l'Indonésie et l'Australie. C'est surtout sur le plan de l'armée, de ces militaires qui avaient réussi à obtenir, à conquérir l'indépendance de l'Indonésie en résistant à l'occupation et qui, pour beaucoup d'entre eux, se sont trouvés maltraités après la période de l'indépendance. Et donc, cette petite armée a souvent été impliquée dans des tentatives de déstabilisation du gouvernement, soit pour son propre compte, soit de la part des politiciens civils. Donc aujourd'hui, on a un président, enfin leader de la guérilla, et un premier ministre qui a le pouvoir réel et qui est lui-même un ancien dirigeant de la résistance aussi contre l'Indonésie. Donc en quelque sorte, depuis quelques années, il y a une espèce de stabilisation politique et militaire dans le pays du fait que, en réalité, sous des habits civils et grâce à l'élection, des gens d'origine militaire ont pris le pouvoir dans ce pays.
Alors le Timor oriental sort d'élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sans violence. Est-ce que c'est un signe de bon augure ?
C'est ça qui permet d'espérer que les choses vont s'arranger et c'est ce qui permet de croire que ce deuxième départ des forces des Nations Unies est le bon. Ceci dit, la situation sociale du pays reste très difficile. Vous avez encore une extrême pauvreté. Les trois quarts de la population vit dans les campagnes extrêmement difficilement. Et la rente pétrolière n'arrive pas à descendre dans l'ensemble de la population. Et surtout, cette rente pétrolière, comme dans beaucoup de cas, ça représente 90% des revenus du gouvernement timorais. Ça le dispense, en réalité, de rendre des comptes à sa propre population, ce qui ne permet pas donc un développement démocratique sain. Néanmoins, on peut espérer que, fort des divisions du passé et de la nécessité qui semble avoir été comprise maintenant depuis 3 ou 4 ans, de savoir vivre ensemble et de se réconcilier avec ceux des Timorais qui avaient pris le parti de l'Indonésie, il faut espérer que ces divisions du passé relèvent bien du passé.